La cuisinière éprouvait maintenant un malaise vague. Elle avait profondément souhaité que les mauvais jours ne fussent plus qu'un cauchemar, et s'était mise à observer ses maîtres avec une tendresse dans le regard. Mais aujourd'hui le passé refaisait surface, et elle se souvint de tous ces fantômes avec une précision effrayante. Elle s'en voulait d'avoir été assez idiote pour croire un seul instant qu'Éléonore échapperait à la clé, à la chambre et au couteau. Les lieux, le marquis lui-même étaient maudits, et elle se demanda si Dieu la punirait pour avoir été servante d'enfer. La femme de chambre entra gaiement dans la cuisine et trouva la cuisinière plongée dans une telle stupeur qu'elle s'inquiéta bientôt. « Eh bien quoi ? As-tu besoin d'un remède ?» La cuisinière tourna la tête. « C'est madame qui est venue en cuisine. »« Eh bien, cela arrive quelquefois. T'as-t-elle grondé ?» L'autre hocha la tête vivement en signe de dénégation. Elle était agitée, la pauvre petite, et pâle, comme si le démon venait de lui apparaître. « Mais qu'a-t-elle dit ?» Elle m'a demandé à manger et m'a prié de lui parler de la noce de ma fille, mais elle a mangé à peine une bouchée de mon gâteau et n'a rien écouté à ce que je lui ai raconté. Je voyais bien qu'elle était ailleurs, ses beaux yeux bougeaient sans cesse et elle ne cessait de lisser un ruban qui n'était pas du tout froissé. La cuisinière était au bord des larmes et la femme de chambre ne voulut pas la presser. C'est alors qu'il y a eu cette lumière dorée, comme une petite flamme, à côté de sa main, sur la table. Et moi qui savais que c'était cette maudite clé en train d'apparaître, j'ai regardé son pauvre visage. La femme de chambre était à présent aussi triste que sa compagne. « Elle l'aime tellement, dit-elle doucement. Peut-être aura-t-elle raison de la clé. » La cuisinière secoua la tête. Ensuite elle est partie, ajouta-t-elle d'une voix blanche, partie en toute hâte, en emportant cet objet de malheur. Lorsqu'Éléonore passa le seuil du château, un grand vent se leva. Des nuages ténébreux traversèrent le ciel à une vitesse vertigineuse, tandis qu'elle s'engouffrait en courant dans les jardins, et si quelqu'un avait pu la voir dans cet équipage, il aurait juré qu'elle ne s'était pas aperçue de cet orage soudain, tant son visage hagard paraissait bouleversé et presque au bord de la démence. Elle courut longtemps, au hasard des allées qui s'ouvraient sous ses pas, serrant la clé avec fureur, inconsciente du tonnerre qui grondait et de la pluie qui s'était mise à tomber. Elle s'arrêta haletante au bord d'un étang que la couleur du ciel rendait presque noir et lança de toutes ses forces la clé dans l'eau. Il y eut une étrange explosion de lumière dorée lorsque la clé fut engloutie et toute la surface de l'étang demeura illuminée pendant quelques interminables secondes. Puis tout redevint normal et Éléonore se sentit tout à coup vidée, comme si ce geste libérateur avait rongé toute sa substance. Elle rentra souillée, épuisée, sous un ciel incertain, et dut se reposer plusieurs heures. Ce soir-là, le marquis se préoccupa de sa pâleur, et elle dit avoir été surprise par l'orage. Il ne parut pas se douter cependant de l'ampleur de ce qu'elle avait enduré aujourd'hui, et son insouciance eut sur Éléonore un effet curieusement apaisant. Plus avançaient les heures passées auprès de Barbe Bleue, et plus elle avait envie de rire de ce qui s'était passé. La clé avait bougé, mais sa réaction de terreur irraisonnée était un enfantillage grotesque. Elle faillit tout dire à son mari, mais l'occasion ne s'en présenta pas. Elle remit au lendemain matin de le prévenir de l'inconstance et des indélicatesses de la clé. Le lendemain matin, cependant, la clé eut la délicatesse de se trouver dans la coiffeuse, et Éléonore put continuer à faire semblant de dormir tandis que son mari la quittait. Cet épisode singulier, s'il n'eut pas de conséquences directes, marqua néanmoins le début d'un inexorable changement. Éléonore se mit à penser à la chambre interdite, et ses rêveries la ramenèrent de plus en plus souvent derrière cette porte mystérieuse où pouvaient se tenir toutes les merveilles ou toutes les ténèbres, selon les caprices de son imagination. Les premières semaines, cette idée nouvelle lui fut plutôt plaisante. Il était presque excitant de savoir que son empire recelait une enclave et que sa passion même reposait sur un silence qui, tout mutuellement consenti qu'il fût, n'en était pas moins opaque, absolu et intransgressable. Elle se souvenait avec un intérêt particulier du second soir de leur mariage, lorsque la question avait été fugitivement abordée. Une seule chose lui semblait acquise à ce sujet. Cette pièce où elle ne devrait jamais pénétrer avait un rapport avec les défuntes épouses de Barbe Bleue. Toutes ces jeunes filles mortes ne lui faisaient pas peur, mais elles l'intriguaient. elle essayait d'imaginer d'autres femmes à sa place, dans cette chambre, et se délectait à l'idée de leur nuit de noces maussade, de leur journée d'ennui, de leur frayeur, peut-être, devant les racontars stupides de leur famille et des villageois. Elle n'en imaginait aucune heureuse, elle n'en imaginait aucune aimée, et se sentait si infiniment supérieure à elle qu'elle en riait parfois dans sa solitude. Qu'elles eussent été jolies ne faisait guère de doute, car le marquis avait du goût. Mais le pauvre avait dû souffrir mille désillusions devant leur bêtise, leur lâcheté ou leur froideur. Toutes devaient se signer comme des nonnes lorsqu'il dévoilait ses pouvoirs, et aucune n'avait dû entrevoir les étourdissantes virtualités du château. Éléonore s'était d'ailleurs persuadée que c'était le château qui les avait tués, parce qu'il ne supportait pas leur présence en lui, ce même château qu'il avait accueilli avec tant de grâce et d'intimité. Elle finit peu à peu par épuiser les richesses de ce fantasme. Cependant, l'idée de la clé, de la chambre et de l'interdiction formelle qui leur restait attachée, elle ne la quitta pas. Elle était trop amoureuse sans doute pour s'avouer que la curiosité la dévorait et que cette interdiction la contrariait. Aussi contournait-elle le problème en cherchant indéfiniment des raisons à ce caprice. Cette question, elle faillit plus de 20 fois la poser à son mari, mais elle ne savait pas quelle pudeur l'en retenait toujours. Peut-être craignait-elle de le voir s'assombrir ou se fâcher. Peut-être avait-elle simplement honte, lorsqu'elle le voyait si innocent, de former à son sujet des conjectures inutiles et méprisables qu'elle considérait comme autant d'injustifiables trahisons. Le sentiment de faute, pourtant, n'écarta pas l'obsession, et le besoin de savoir pourquoi cette porte lui était interdite, pourquoi il regardait chaque matin dans la coiffeuse, pourquoi cette clé lui était apparue, devint bientôt un sentiment avide et douloureux. Elle lutta aussi longtemps qu'elle le put contre cette avidité, mais elle était trop jeune, ou trop passionnée peut-être, pour imposer longtemps sa volonté à ses sentiments, et elle finit par se demander quel risque elle encourrait véritablement à désobéir au marquis. Lorsqu'elle se posa cette question, elle sut que sa trahison était désormais inscrite, et elle en conçut avant même d'avoir agi un remords écrasant. « C'est là tout ce que je vous demande et tout ce que je vous demanderai jamais pour gage de votre fidélité. » De quel droit allait-elle tromper l'homme qui mettait à ses pieds tout ce qu'il possédait? Mais pourquoi avait-il pris l'absurde décision de mettre dans une clé le gage de sa très pure, de sa fervente fidélité? Car s'il n'avait tenu à lui infliger une limite, elle savait avec 1000 certitudes que son amour eût été illimité. Une limite, un simple seuil qu'elle n'aurait peut-être jamais franchi, ou qu'elle n'aurait jamais désiré franchir, car elle ne désirait que ce qui l'attachait à lui, et qu'elle se moquait éperdument de ses cadavres oubliés. Un simple seuil qui la happait maintenant inexorablement, parce qu'il avait voulu qu'il le séparât d'elle. Éléonore avait repris l'habitude d'arpenter le château, et de bercer ses réflexions de ses errances. Il ne fallut pas longtemps pour qu'elle devint familière de la porte dont l'image rayonnait en elle. Elle passa devant une fois, 2 fois. La 3e fois, elle s'y arrêta, et bientôt s'attarda tout contre elle. C'était une porte simple, qui ne laissait filtrer aucun bruit, aucune lumière et aucun signe. C'était une porte muette, comme toutes les portes closes, et Éléonore, le dos contre son bois, et le regard sans vie, résistait au vertige de la tentation, parfois pendant des heures. Elle ressortait épuisée de ses combats intérieurs, et la fatigue, la fierté d'avoir arraché une si âpre victoire, émoussait son remords, et la rendait capable, le soir venu, de regarder le marquis sans rougir. Car s'il ignorait sa trahison prochaine, il ignorait surtout les efforts titanesques qu'elle déployait pour en repousser l'échéance, et toute la passion qu'elle gâchait pour en masquer les effets. Elle n'eut pas un instant, durant tous ces jours, l'impression de l'aimer moins. Mais son état de tension de jour à jour plus insoutenable devait immanquablement s'achever dans un dénouement brutal, et c'est ce qu'il advint par un soir de décembre. Alors qu'elle passait pour la 100e fois devant la porte, son œil fut attiré par un éclair doré qui jaillissait de la serrure. Elle se figea, mais ne put s'empêcher de regarder encore, et lorsqu'elle vit la clé, parfaitement encastrée dans la serrure, elle imagina avec une volupté infernale le déclic de la porte qui s'ouvre. La magie conjuguée de la clé et de la porte était trop puissante pour elle. Dans quelques fractions d'instant, elle serait à leur merci. Elle poussa un cri pour ne plus entendre le déclic assourdissant dans sa tête et, à bout de sa propre résistance, elle perdit connaissance. Barbe Bleue la veilla jour et nuit, pendant la longue semaine de sa fièvre, et ne manqua ni de la baigner lorsqu'elle était brûlante, ni de la couvrir lorsque les frissons la prenaient. Et il parvint, à force de patience, à la nourrir assez pour qu'elle ne succombât pas de faiblesse. Elle ouvrait de loin en loin des yeux vides et brillants, qu'elle refermait aussitôt, et ses lèvres parfois s'agitaient en des murmures délirants. Il lui arriva plusieurs fois de parler de la clé, qui ne pouvait se trouver dans la coiffeuse puisqu'elle l'avait jetée dans l'étang, ou qui apparaissait dorée dans les ferronneries de la serrure. Barbe Bleue, lorsqu'elle délirait, baisait sa main pensivement et hochait parfois la tête, l'air las. La veille de Noël, la fièvre l'emporta si loin que Barbe Bleue se vit au bord de la perdre, et l'angoisse tyrannique, dévorante, insomniaque qui l'étreignit alors, lui enseigna qu'il n'aurait jamais la force de lui survivre. Son amour était parvenu à ce point extrême où Éléonore cristallisait tout l'espoir et toute la beauté de l'existence, et il n'imaginait pas plus sa vie privée d'elle qu'il ne pouvait imaginer l'extinction du soleil et les ténèbres glacées noyant le monde à tout jamais. Il se força à croire que si elle était assez forte pour survivre à la fièvre, elle saurait résister à l'obsession de la chambre. Il le crut passionnément, et lorsqu'elle fut enfin hors de danger, il éprouva une joie surhumaine et pleura sur son corps guéri. L'un des premiers désirs exprimés par Éléonore, lorsqu'elle eut à nouveau sa conscience, fut de recevoir sa sœur Anne pour sa convalescence. Barbe Bleue ne montra pas le moins du monde la souffrance qu'un tel désir lui causait, et ravala sans amertume la décision qu'il avait prise de demeurer lui-même auprès de sa femme. Au contraire, il parut se réjouir de ce projet et s'empressa de tout mettre en œuvre pour qu'Anne fût là le soir même. La perspective d'une présence et d'une influence étrangère le mettait mal à l'aise, car il ne savait quelles conséquences la confrontation de leur bonheur bizarre et du monde ordinaire pourrait avoir dans l'esprit d'Éléonore. Il avait peur qu'elle se mît à considérer leur vie d'un œil étranger et critique, qu'elle répugnât à se servir devant sa sœur des pouvoirs magiques que le château lui avait conférés et qu'elle utilisait d'ordinaire si naturellement, peur qu'elle eût honte de lui, de sa réputation sanglante et de leur amour miraculeux qu'aucune sœur au monde ne serait jamais capable de comprendre. Il s'en voulait pourtant de l'avoir tenue recluse, de ne lui avoir jamais proposé de revoir les siens. La seule pensée qu'il ne suffisait peut-être pas à son bonheur, qu'elle avait peut-être mille désirs dont il ne soupçonnait rien, et que croyant la combler, il l'avait peut-être frustrée, lui était presque insupportable. Il se jura d'être moins exclusif, plus attentif aux moindres signes qui émaneraient d'elle, pour prévenir tous ses désirs. Il décida aussi de ne pas lui parler des délires qu'elle avait eus pendant sa fièvre, et de la laisser ignorer qu'il avait suivi son combat de loin, avec appréhension, depuis le soir où il l'avait trouvée si pâle à son retour. Sans doute le silence l'aiderait à oublier, à vaincre, et puisqu'il était maintenant trop tard pour reculer, il l'aiderait à sa façon à poursuivre la lutte. Elle, à travers sa faiblesse, lui souriait sans cesse, comme si le bonheur d'être sauvé était insignifiant comparé à celui de le revoir. Anne attendait rêveusement la calèche qui devait l'emporter, sans prêter attention à ses parents qui, derrière les carreaux, guettaient le moindre de ses gestes. À moitié heureux à la perspective d'avoir enfin des nouvelles plus tangibles que ses poignées de mots vides de sens, et à moitié effrayés à l'idée de livrer ainsi leur seconde fille à ce lieu de malheur, ils avaient proféré maintes paroles incohérentes, ordonnant à Anne de ne jamais se rendre au château, tout en mettant dans son sac un pot de confiture pour Éléonore. La calèche arriva, équipée comme en un conte, et s'arrêta à la hauteur d'Anne. Elle fut surprise, en tendant ses bagages au laquais, de voir que Barbe Bleue la regardait depuis l'intérieur. Elle pria pour que ses parents ne l'eussent pas aperçue, et s'installa avec précipitation. « Bonjour, ma sœur, » dit-il avec une affection étrange. « Bonjour. » Ils se regardèrent un moment, comme pour une estimation mutuelle, et lorsque la calèche démarra, leurs deux visages se sourirent. « Vous ressemblez un peu à Éléonore, » remarqua-t-il, une insolence dans le regard. « Et vous, savez-vous à qui vous ressemblez pour moi ?» demanda-t-elle en riant. « À l'ogre d'un château instable, qui porte une barbe bleue et que vous avez brandi comme un croque-mitaine pour effrayer votre petite sœur. » « Je n'aurais pas trouvé ces mots, mais c'est à peu près ça, » dit-elle plus sérieusement. « Est-ce que je ressemble à vos portraits ?»« Vous ressemblez davantage à ceux qu'Éléonore m'a brossés dans ses lettres, » dit-elle avec prudence. Il eut un vague sourire. « Que dit-elle de moi dans ses lettres ? Qu'elle vous aime ?»« Il observa un silence assez long et la dévisagea. « Et croyez-vous ce qu'elle écrit ? Pourquoi me mentirait-elle ? N'avez-vous jamais eu peur que je cause sa perte ?» Anne baissa les yeux, puis les releva et dit avec difficulté « Si, mais je crois que vous êtes le premier à craindre de causer sa perte. » Barbe Bleue tourna la tête. « Vous êtes clairvoyante, ma sœur. » Et, après un silence, Éléonore a été très malade. Elle eut une exclamation d'inquiétude, puis il reprit. « Mais, que je vous rassure, elle est hors de danger, et je compte sur vous pour endiguer les fièvres qui risqueraient de la reprendre. Que voulez-vous dire ? Que nous ne serons pas trop de deux pour éviter sa perte. » Anne le regarda avec effroi, mais elle ne vit qu'un homme brisé de fatigue, presque mélancolique, qui se laissait aller à son angoisse. « Il se peut que vous soyez surprise par quelque particularité du château, » dit-il d'un ton plus ferme. « Vous faites allusion à sa magie ?» Il porta à nouveau les yeux sur elle. « Vous aimez appeler les choses par leur nom, n'est-ce pas ?» Anne hocha la tête, déconcertée. « C'est ce qui me fait peur chez vous, » reprit-il. « Je vous en prie, n'apportez pas de clarté à votre sœur. Elle en mourrait peut-être. » Ce furent les derniers mots qu'ils échangèrent du voyage. Anne, qui était partie dans la hâte et la curiosité, arriva chez sa sœur bouleversée et inquiète. Jamais l'incarnation du mal qu'elle s'était représentée autrefois n'aurait pu la désarçonner comme venait de le faire cet homme. Jamais elle n'avait éprouvé ou imaginé que l'on pût éprouver pareille confusion de sentiments. En posant le pied devant les grilles du château, elle se souvint des descriptions d'Éléonore et sut immédiatement qu'elle foulait une terre étrangère. Et il lui fallut tout l'amour d'une sœur pour l'empêcher de s'enfuir en courant. Anne fut conduite à ses appartements par une femme de chambre bavarde, dont elle ne put écouter la conversation, assaillie qu'elle était par les sensations fourmillantes que lui donnait le château. Les murs, le sol, le plafond, les objets accrochés, les fenêtres et les portes semblaient sans cesse se jouer d'elle, accomplissant sans cesse de subtiles métamorphoses qu'elle apercevait sans jamais les voir vraiment. Il lui sembla parcourir un dédale avant d'arriver à sa chambre, et dès que la servante fut partie, elle s'enferma à double tour. Sa chambre était grande et luxueuse, mais un peu sombre, et elle faillit lâcher un cri lorsqu'elle vit une silhouette se détacher dans l'ombre. « Anne, ce n'est que moi !» Éléonore se précipita dans les bras de sa sœur, et elles s'embrassèrent, saisies par une émotion profonde. « Je suis heureuse que tu sois près de moi, » dit Éléonore en s'écartant. Anne ne put s'empêcher de contempler sa sœur, si belle en sa robe vert sombre, si royale sous ses bijoux rutilants. « Tu n'as pas menti, » dit-elle en souriant. « Tu ressembles à une princesse de légende. » Éléonore sourit à son tour. « Je te donnerai des robes et des bijoux, » dit-elle doucement. « J'en ai tant que je pourrais porter des parures différentes tous les jours de ma vie. « Ton mari m'a dit que tu avais été malade. » Éléonore détourna le regard. « Mais je suis guérie à présent. Et puis n'en parlons pas ce soir, veux-tu ? Nous aurons tout le temps d'en parler demain. » Anne acquiesça. Elle se sentait mal à l'aise. Il lui semblait qu'Éléonore était un peu trop belle et un peu trop grave, que quelque chose avait changé en elle, qui l'empêchait de la reconnaître tout à fait. « Mais que pourrais-je te raconter maintenant ?» dit Anne en souriant, « puisque tu vis dans toutes ces merveilles. » Éléonore parut attristée et tourna vivement la tête. « Alors tu me raconteras l'histoire de Barbe Bleue et de ses épousailles sanglantes. Il faut que tu me fasses très peur, Anne. » Anne ne sut que répondre, mais Éléonore se ressaisit. « Que penses-tu du château ?» Anne était troublée et mit quelque temps à répondre. « Je n'y suis pas encore habituée. Te fait-il peur ?» Anne fronça les sourcils. « Oui, sans doute. » Éléonore parut pensive. « C'est drôle, moi, je l'ai aimé tout de suite. » Anne commença à défaire son sac. Elle n'arrivait pas à s'accoutumer à la lourdeur de l'atmosphère, de la conversation. Elle se sentait prise dans un engrenage terrible, sans comprendre ce qui arrivait. En sortant le pot de confiture de son sac, elle eut un geste maladroit et le brisa. « Je suis désolée, » dit-elle. « C'était un pot que maman m'avait donné pour toi. » Éléonore se tourna vers la fenêtre. « Comment vont-ils, nos pauvres parents ?»« Ils sont inquiets, » dit Anne sans réfléchir. « Eux aussi ?» « Ne leur as-tu pas dit combien j'étais heureuse ?»« Si, bien sûr, mais tu les connais. »« Et nos frères ? Ils devraient être de retour d'ici 2 jours. »« « Ma pauvre Anne, » dit Éléonore en se retournant vers sa sœur, « tu devais te faire une joie de les revoir, et moi je te convoque dans ce château hanté. » Anne éclata de rire, d'une manière qui aurait pu paraître naturelle et qui aurait sans doute trompé tout autre que sa sœur. « Je me suis fait une joie de venir te voir, Éléonore, et nos frères attendront bien un peu. »« Il est tard, » remarqua soudain Éléonore en regardant autour d'elle. « Mon mari doit nous attendre pour souper. »« Il faudra m'excuser, Anne, mais je me retirerai avec lui ensuite, et nous nous reverrons demain. »« Bien sûr, il n'est pas habitué à partager ta présence. » Éléonore déverrouilla la porte et l'ouvrit. « Je ne suis pas habituée à partager la sienne non plus. » Anne s'apprêtait à faire une remarque à propos de la confiture répandue lorsqu'elle vit le pot, intact, posé par terre à l'endroit où il s'était brisé. Elle regarda sa sœur, qui la fixait avec insistance. Il y eut un bref moment d'embarras, puis elles sortirent, sans souffler mot. Le souper fut exquis, mais rapide et silencieux, et Anne, en se retirant dans sa chambre, pleura longuement sur son lit. À la fin, ses yeux endoloris se fermèrent d'eux-mêmes, et elle s'endormit d'un sommeil nerveux. Le lendemain matin, lorsqu'Anne se fit conduire chez sa sœur, Éléonore était assise sur son fauteuil, parée, comme chaque jour, comme pour une fête. Un chaton tigré et bourriffé était sur elle et jouait avec les dentelles de sa robe. Elle se laissait faire sans sourire et semblait absorbée dans une méditation si profonde qu'elle ne vit pas sa sœur entrer. « As-tu bien dormi ?» lui demanda-t-elle lorsqu'Anne se fut avancée. « J'ai dormi, en tous les cas. » Anne s'approcha du chat et lui tendit ses doigts que la petite bête se mit à mordiller fébrilement. « Il est mignon, » dit-elle. Éléonore lui lança un regard. « Prends-le si tu veux, il m'agace. » Anne parut surprise, prit le chaton et s'installa en face d'Éléonore. « Je te préviens, » dit-elle, « il va falloir me montrer tout, les robes, le jeu d'échecs, les miroirs où on voit l'océan, les roses vertes dans les jardins. » Éléonore eut un pâle sourire. « T'ai-je déjà parlé de la clé ?» Anne secoua la tête. « Il y a une pièce dans le château où Barbe Bleue m'a défendu d'entrer, mais il m'en a remis la clé. » Elle se leva, se dirigea vers la coiffeuse, hésita un instant puis ouvrit le tiroir presque brutalement. « La voilà, » dit-elle d'un ton tranchant, « la clé de la chambre interdite. Il regarde dans ce tiroir tous les matins. » Anne ne savait pas quoi dire et décida de se taire. Éléonore avait un air de détermination qu'elle ne lui connaissait pas. « Qu'en dis-tu ?»« Je ne sais pas, » dit Anne, « cela ressemble à une épreuve. »« Une épreuve, pourquoi ?» murmura Éléonore presque tristement. Le chaton s'était endormi dans l'une des mains d'Anne. « Je n'en sais rien. » Éléonore faisait maintenant les 100 pas dans sa chambre, le visage marqué et tendu. « À ton avis, qu'y a-t-il dans cette pièce ?» Anne aurait donné tout l'or du monde pour changer de conversation, mais voyait approcher la tempête sans moyen de la prévenir. « Comment veux-tu que je le sache, Éléonore ?»« Tu as toujours débordé d'imagination, certain encore une fois. »« Je n'ai aucune envie d'imaginer ce qu'il y a dans cette pièce, et surtout pas dans l'état où tu es. » Éléonore s'arrêta brusquement de marcher et alla se rasseoir. « Je ne pense qu'à cette chambre, tu comprends ?» Dès qu'il n'est pas là, cela me reprend. Je voudrais penser à autre chose, mais cela revient toujours, à chaque minute, à chaque seconde. » Anne posa le chat par terre et s'approcha de sa sœur. « Il faut que tu te reposes, » lui dit-elle en caressant doucement son front. « Veux-tu que je te raconte des histoires comme avant ?»« Je ne les écouterai pas, » dit Éléonore d'une voix blanche. Malgré son avertissement, Anne se mit à raconter fiévreusement des histoires dont elle ne se souvint même pas par la suite. Elle se laissa emporter par sa parole hypnotique et s'épuisa en des descriptions fabuleuses, en des détails sans nombre, tandis qu'Éléonore muette regardait à travers elle. Il ne lui était plus possible d'entrer dans une autre histoire que celle où elle se trouvait déjà. Elle aurait voulu pouvoir l'expliquer à sa sœur. Son histoire avait éclipsé toutes les autres, et cette histoire s'acheminait vers sa fin. Depuis toujours, elle l'avait su. L'épouse de Barbe Bleue finirait par ouvrir la porte. Lorsqu'Éléonore avait prié Anne de la quitter et d'emporter le chat, en début d'après-midi, celle-ci n'avait rien osé dire. Elle s'était mise en quête d'une servante pour lui confier l'animal effrayé et avait croisé la femme de chambre dans un couloir. Leur conversation d'abord banale, à laquelle Anne se raccrocha comme à une planche de salut, glissa pourtant inexorablement vers le cœur ténébreux de ses angoisses. Votre sœur a l'air de se porter mieux, avait remarqué la femme de chambre. Au contraire, j'ai l'impression que son délire la reprend. Elle ne cesse de parler d'une clé, d'une chambre interdite. La femme de chambre avait pâli. Pauvre petite, avait-elle murmuré. Anne s'était sentie défaillir, et tandis que la femme de chambre horrifiée lui racontait, avec une précision glaçante, comment les sept épouses avaient reçu le même ordre, combattu la même obsession et ouvert la même porte, et comment leur époux ivre de fureur les avait tuées l'une après l'autre, le lendemain même de leur désobéissance, elle crut sombrer dans la démence et dut fournir un effort surhumain pour garder sa lucidité. Elle courut effrénée à la chambre d'Éléonore, qui n'y était pas. Elle parcourut tous les passages, toutes les salles du château, en hurlant le nom de sa sœur, que des échos déformants répétèrent, sans jamais obtenir de réponse. À la fin, épuisée, au bord de la désespérance, elle écrivit un billet à ses frères, les enjoignant de venir au plus vite, et dépêcha en toute hâte un domestique pour le porter chez elle. Elle devait se souvenir des heures et de la nuit qui suivirent, comme des moments les plus terribles de son existence, et ne put jamais échapper par la suite à d'interminables insomnies où elle croyait les revivre.